Mon invité cet après-midi sur la scène week-end est quelqu'un de super inspirant quand on parle de bonnes habitudes de vie. Et il y a une belle invitation d'ailleurs, je pense, à vous lancer présentement sur les ondes de week-end. Pierre Lavoie, bienvenue.
Oui, merci de me recevoir.
Comment ça va?
Bien, ça va bien. La saison de ski de fond est terminée, malgré qu'elle voudrait qu'on continue, mais on veut passer à nos vélos, là, bien entendu.
Mais là, le grand défi s'en vient.
Oui, le grand défi approche. On sait que c'est toujours le long. C'est le week-end au milieu de juin. Donc, cette année, c'est le 13, 14, 15, 16 juin. Et bien entendu, cette année, on ramène la boucle. C'était une des étapes. On sait que le 1000 km, c'est à peu près 13 étapes consécutives, là, jour et nuit.
Oui.
Mais on s'arrête à Québec cette année, bon, donc à Lévis, dans le coin de Québec, pour faire notre parcours de 135 km. On invite les gens à pédaler avec les cyclistes du 1000. Et l'an passé, elle avait été sortie du 1000 pour l'amener pour le 375e à Montréal.
Effectivement.
Et on la ramène maintenant dans le 1000 pour finalement, et surtout à Québec, pour inviter les gens de la région à pédaler cette étape, qui est 135 km sans chronomètre, il faut le dire. Et aucune auto sur les routes, donc la route est fermée totalement. Et ça débute à 9h le matin, le samedi 16 juin, et ça se termine, vous pouvez terminer jusqu'à 18h le soir. Donc vous avez du temps pour la faire, c'est super organisé. Puis on peut pédaler seul, on peut le faire avec des amis, on peut parrainer l'école de nos enfants ou de nos petits-enfants. Donc on amasse des fonds, puis on va la porter ensuite à l'automne à l'école pour acheter des équipements pour les faire bouger. Donc, les écoles attendent les dons présentement, là, parce qu'il y a beaucoup à faire dans les écoles. Ils ont des grandes responsabilités. On veut qu'ils puissent faire bouger nos jeunes, mais on ne leur donne pas souvent beaucoup d'outils. Oui. Et donc, on essaie de leur donner le maximum d'outils pour bien faire leur travail.
Le 1000 km, ça fait 10 ans. 10 ans. C'est une réalisation incroyable.
Oui, 10 ans. Je ne pensais pas que... Oui, ça grossit pas mal. Vous savez, ça avait commencé 10 ans avant, par le défi Pierre Lavoie, en 99 dans ma région, pour mes enfants, Laurie et Raphaël, qui malheureusement sont décédés. Mais bon, ensuite, on l'a tourné vers les saines habitudes de vie, parce qu'on savait qu'il y avait un problème sociétal, l'obésité, l'inactivité chez les jeunes, puis aussi une société sédentaire. Mettait beaucoup de pression sur un système de santé qui devenait finalement exclusif, presque exclusif à des maladies qu'on pouvait prévenir par nos comportements. Bien entendu, quand t'es pris des maladies orphelines, il y a beaucoup de parents qui sont pris avec ça au Québec, à peu près 850 maladies génétiques orphelines, bien, ils sont orphelins du système qui les sert mal. Le système sert les maladies qu'on peut prévenir par nos comportements, mais il sert mal les maladies que tu nais avec. Donc, une aberration sociétale. Puis pour ça, ben, il fallait s'attaquer à l'éléphant qui était dans la cuisine, qui était le système de santé, qui lui est axé sur le curatif plutôt que sur le préventif. Donc, lancer un mouvement social, comme dans l'environnement à l'époque, mais ce serait axé sur des valeurs de bouger plus, manger mieux et ne pas fumer pour créer des nouvelles générations qui viendraient corriger cette situation qui nous amène tous collectivement vers un mur. Vous savez, le dernier budget, on a augmenté le budget de la santé on est à 36 milliards 700 millions. Là, maintenant, on est rendu à 39 milliards. L'éducation est à 17-18 milliards. Dans les pays un peu plus évolués que les nôtres, parce qu'on n'est pas très évolué ici, même si on le croit. Les sociétés sont très responsables. Donc comme les pays scandinaves, on les cite souvent, mais quand même, il faut regarder leur modèle. Eux mettent autant d'argent en éducation qu'en santé. Oui. Parce qu'ils corrigent leur problème de santé par l'éducation. Ici, nous, on est à 40-18. Comprenez, il y a une aberration. Puis le système, d'ailleurs, va aller plus loin que ça. Il va se rendre à 70 % de nos impôts dans 12 ans seulement. Donc, les prochaines générations, donc nos enfants auront une pression énorme.
Et en 10 ans, est-ce qu'on a fait un pas en avant?
Oui, on a avancé, mais regardez bien. C'est un problème sociétal. Les parents ont été assez sédentaires. Ils n'ont pas transmis leurs enfants parce qu'ils n'ont pas reçu dans leur éducation. On a coupé beaucoup en éducation, 1 milliard en 5 ans. La première chose qui est coupée dans une école, c'est les activités parascolaires. Et souvent, on y va, c'est normal, on y va du côté académique. Puis je suis premier à dire oui, c'est vrai qu'il faut faire ça en premier. On y va à l'urgence. Et par la suite, est arrivé des outils comme l'iPad. Vous savez que l'iPad, ça existe seulement depuis 6 ans.
Oui.
Ça vient d'arriver. Et là, on se rend compte que ça rend nos enfants extrêmement captifs. Et là, ils ont un réseau en plus où ils communiquent entre eux là-dessus. Et ça les rend sédentaires. Et ils sont comme nous, ils deviennent captifs à ces outils. Puis je ne veux pas les éliminer, les outils. Mais là, on se rend compte qu'il y a un problème. Mais avant qu'on se tourne de bord, puis qu'on fasse des efforts pour essayer de trouver des solutions alternatives, hey, ça prend du temps. Là, le monde, c'est au gouvernement à faire les choses. Le gouvernement ne peut rien faire. C'est à nous, comme parents, comme citoyens, comme maire de municipalité, comme politiciens, mais aussi comme, comme enseignants, comme finalement tous ceux qui habitent dans cette société, puis regarder autour de nous, il y a des défis sociétals.
Mais notre propre responsabilité dans tout ça,
oui,
finalement.
Ben oui, totalement. Puis ça, on n'y arrivera pas si les gens comprennent. Le modèle québécois, qui pendant 50 ans était axé sur qu'est-ce que l'État peut faire pour moi, il ne fonctionne plus. Les gens, faut venir à l'évidence, là, qu'il est non pérennisable présentement. Donc, ça veut dire que comment on peut aller plus loin comme société? Bien, c'est comme dans l'environnement. Il faut que tu te responsabilises. Bien, dans la santé, c'est la même affaire. Mais vu qu'on a des super médecins qui font des belles opérations, puis qu'on fait plein de découvertes, puis il y a beaucoup de pharmaceutiques qui justement, se nourrissent de cet éléphant qui est dans la cuisine, là, qui est immensément obèse, puis il n'y a aucun intérêt à maigrir parce qu'il y a plein d'organisations qui s'en nourrissent.
On finit par le banaliser.
Oui, puis on finit par s'y habituer. Puis on ne le voit pas. Mais lui, il continue de grossir. Et il dit aux jeunes, là, si vous voulez travailler, là, j'arrive de l'école de Rochebelle, là, je disais aux jeunes, si vous voulez travailler, allez en santé. Allez en santé. 70 % de nos impôts seront investis là-dedans dans 12 ans. Tout le travail est là, tu sais. Puis en plus, il est curatif. Non, j'essaie de leur dire préventif. C'est de faire grandir des nouvelles générations qui vont penser autrement puis qui vont agir autrement. On l'avait réussi avec l'environnement, puis on a une conscience maintenant environnementale, puis on est prêt finalement à poser des gestes tous et chacun. Puis là, le gouvernement crée des économies vertes qui stimulent plein, tant aussi longtemps qu'on va stimuler, puis on va faire spinner l'économie verte, plus on corrigera les problèmes de l'environnement. Donc, ça prend une genre d'économie préventive qui n'existe pas du tout au Québec, là, pour s'attaquer à l'éléphant, qui, lui, nourrit beaucoup de gens. Puis eux sont très contents de ça parce que c'est payant que le monde soit malade. Donc, il faut voir un modèle alternatif. Et c'est pour ça qu'on se fie sur les autres générations. Puis nous, on crée des événements. Parce qu'on peut, je pourrais dénoncer, je dénonce aujourd'hui. Là. Bon, ça donne pas de résultats. Ce qui donne des résultats, si je vous ai conscientisé aujourd'hui par ce que je suis en train de vous dire, moi, ce que je souhaite, c'est que tu tournes, tu regardes tes enfants. C'est vrai, j'ai une part à faire aussi. Mais ce que l'État nous a promis dans les dernières années, dans les 50 dernières années, c'est qu'elle allait éduquer nos enfants, ça fait rêver, et puis qu'elle allait nous soigner quand on serait malade. Bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont déresponsabilisés. Les gens se sont désengagés. Donc, je dis toujours aux gens, vous avez aussi une responsabilité envers l'éducation de vos enfants. Vous avez aussi une responsabilité envers votre santé. Bien, voyons donc, on n'y arrivera pas si vous demandez tout à l'État.
On ne règle pas le problème.
Donc, le système actuellement, il est axé sur un État qui gère les problèmes des citoyens. Et le citoyen n'est pas très responsable par rapport à ces défis qu'il y a autour de lui. Je dis aux gens, regardez autour de vous, là. Regardez vos voisins, regardez l'environnement, regardez l'éducation, regardez la santé. Il y a plein de défis à relever là-dedans, là. Puis vous en avez tous une responsabilité. Si vous dites, non, c'est pas mon affaire, moi, je fais ma petite affaire, l'État va s'en occuper. Bien, tu vas continuer à payer beaucoup d'impôts avec peu d'efficacité. C'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, c'est pas un message de gauche que je livre, là. C'est un message de gros bon sens.
Ben oui.
C'est une responsabilisation, c'est citoyenne, envers les défis qu'on a comme parents, comme mère, comme tout le monde doit se regarder. Puis je suis qui comme personne? Je suis un médecin, je suis un homme d'affaires, je suis un enseignant, je suis un grand-parent.
Qu'est-ce que chacun peut faire pour sensibiliser les autres?
Il faut que les gens comprennent que le défi, l'inactivité de nos enfants, il est énorme. L'iPad, il nous fait reculer encore. Et on baisse pas les bras.
De quelle façon on peut prendre l'iPad maintenant pour justement nous faire bouger?
Ben oui, puis nous, on a créé des applications. Ça s'appelle Joue au cube. Le jeune download l'application, il va voir ça sur Apple Store. C'est gratuit. Et il y a un jeu que tu as 10 étapes à faire, puis l'enfant apprend à faire des choix alimentaires. Le principe du jeu, c'est la planète Malbouffe, hein, qui ne sont pas très contents parce que je prône les saines habitudes de vie sur Terre. Donc, ils m'ont capturé. Ils m'ont emmené sur leur planète et les jeunes, pour venir me libérer, ils doivent nourrir les 4 super-héros. Qui sont les 4 groupes d'alimentation canadienne.
Ouais.
Ils doivent préparer leur déjeuner. Ils doivent apprendre à mettre les bons aliments. Ils ont toute une formation sur le web. Après ça, ils doivent préparer pour augmenter l'énergie de leurs super-héros pour venir me délivrer. Donc, ils apprennent à lire des étiquettes. Ils apprennent finalement à faire des bons choix. Ils apprennent des fruits et des légumes. Donc, finalement, quand ils vont faire l'épicerie avec leurs parents, ils sont capables de vous dire, puis ils ont 10 ans, quel est le meilleur pain dans la rangée. Parce qu'ils tournent l'étiquette, ils vont vérifier les 3 S. Les gras saturés, les sucres et le sodium, il faut qu'ils soient le plus bas possible. Et ensuite, ils regarderont le quatrième et dernier élément, les fibres, qui doivent être les plus élevées possibles. Et ils vont dire, maman, c'est celui-là. Donc, on leur apprend à lire. Qu'est-ce qui nous permet de faire ça? L'iPad. Vous comprenez, on ne l'éliminera pas. Mais comment on s'en sert?
On l'utilise à notre avantage.
Ben oui, pour éduquer les gens. Puis là, l'intelligence artificielle va probablement venir corriger ça, va accélérer nos choix, nos bons choix. Et j'espère que tout ce qui est de la merde, là, c'est des entreprises de malbouffe, là, ils ont des milliards à investir pour influencer nos enfants à faire des mauvais choix. Puis nous, on est une petite gang, un grand défi. On est 50 employés, puis on essaye, on a quelques millions, puis on a une douzaine d'événements. Puis des fois, on nous tire dessus. Mais voyons donc, on devrait être une armée. As-tu vu l'armée qu'ils ont pour le curatif? On est tout petit à côté d'eux. Puis on fait des événements, puis les gens, ah, vous nous dérangez, vous fermez les rues, vous comprenez pas, là, c'est un mal nécessaire. On est dans un mouvement social qui doit grandir et devenir une norme sociale.
Et pourquoi ces personnes-là ne s'impliqueraient pas à venir le faire au lieu de s'asseoir à regarder passer?
Mais en même temps, si je me dis, oui, puis je dis toujours aux gens, arrêtez de parler, puis souvent, je le dis ce matin encore dans une entrevue, moi, je t'accueillerais des chialeux. Les gens qui chialent, il y en a plein au Québec. Puis à chaque fois que quelqu'un critique, puis chiale sur Facebook, là, ou dans le journal, ou à la radio, moi, je me pose toujours la même question, puis je lui pose une question. OK, toi qui critiques aujourd'hui, là, c'est beau, très belle critique, bien formulée, souvent bien écrite, mais à part de chialer puis de critiquer, là, est-ce que tu t'impliques en éducation? Est-ce que tu t'impliques dans les problèmes sociaux? À part de chialer? Non? Ben ferme ta boîte. Arrête de chialer. Je te cœurerai des gens qui font que chialer puis qui font rien.
Oui.
Il y a trop de chialeux au Québec. Un chialeux qui passe à l'action, je vais l'écouter, là, pendant des heures. Parce qu'il pose des gestes. Il n'est peut-être pas parfait, mais il pose des gestes. Il essaie au moins. Mais les gens qui essaient, là, arrêtez de les critiquer. Au moins, il y a du monde sur la planète qui essaie de faire avancer les choses. Avec le temps, en 10 ans, on a fait avancer, je pense, cette conscience sociale où il faut faire quelque chose. Donc, il reste l'étape suivante, l'action. Donc là, c'est pour ça qu'on crée toujours des événements, on essaie d'en ajouter. Puis nous, on aime, on sait que les paroles, c'est bien, mais ce qui donne des résultats, c'est les actions. C'est pour ça qu'on essaie de, comme la boucle, on sait qu'à peu près 80 % des gens qui viennent faire la boucle, c'est des gens qui étaient sédentaires un an avant. Ils sont servis de cet événement-là comme outil de changement.
Donc, c'est accessible.
Ah, totalement, parce que c'est presque plat. C'est, y a aucune auto. C'est sécuritaire. Puis, t'as le temps. Y a pas de chronomètre. C'est fait pour les gens ordinaires qui veulent se relever un défi à 135 km à pédaler, par contre. Donc,
on part de Lévis, on va à Montmagny, puis on revient par les petites routes, finalement.
Exactement. On revient par les terres, les villages qui vont nous accueillir. On remet 10 000 $ au village le plus accueillant. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'ils se préparent. Et pourquoi cet argent-là, elle va où? Elle va dans leur école primaire défavorisée pour acheter des équipements. Mais pour ça, vous devez, si vous voulez la gagner, la bourse, là, accueillir les cyclistes quand ils vont passer. Puis quand on l'avait fait la dernière fois à Montmagny, là, dans un petit village un peu plus loin, tout à coup, je regarde, puis dans le champ, il y avait 5 vaches peinturées roses. Tu sais, je me disais, ça se fait pas, là, je vois mal. Là. Et oui, le cultivateur avait peinturé ses vaches roses. Ils n'ont pas gagné, mais c'était vraiment impressionnant. Donc, les municipalités font des choses, puis c'était Saint-Michel qui avait gagné, parce qu'il accueillait les cyclistes dans le pied de la côte avec de la crème glacée, toutes sortes de choses agréables. Puis c'est les cyclistes qui votent après. Donc, on a du plaisir, puis on le fait dans le changement. Puis 135 km, vous n'avez pas le choix de changer votre mode de vie pour le réaliser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez changé votre mode de vie pour le réaliser, vous avez eu de l'influence sur votre conjointe, vos enfants, et vous ne reviendrez plus jamais en arrière parce que vous avez réussi l'épreuve. Donc, on crée un nouvel ambassadeur. Donc, la boucle, c'est beaucoup de monde. C'est 5 000, 6 000 cyclistes qui, finalement, deviennent des ambassadeurs. Et à force de faire des 5 000, 6 000 là, à chaque année, bien, on commence à avoir une armée sur le terrain.
Et en 10 ans, ça s'est passé d'une génération à l'autre.
Ah oui, totalement. Les jeunes sont maintenant à l'université. Ils arrivent, les premiers qui ont fait des cubes énergie sont à l'université, ils achèvent l'université d'ailleurs, arrivent bientôt sur le marché du travail et vont demander à leur employeur d'avoir des programmes santé. Puis s'ils n'en ont pas, ils ne vont pas travailler pour eux. Puis ils vont vouloir habiter dans une ville, parce que le maire a été assez visionnaire, tu sais, là. Que oui, c'est beau, un amphithéâtre de hockey, là, tu sais, là. Mais que pour créer des environnements favorables, pour faire bouger ses citoyens. Ça, là, je vous dis, là, c'est beaucoup plus porteur. Puis si le maire ou la mairesse n'a pas eu cette vision, bien, ils vont l'habiter dans la ville d'à côté, tu sais, ou ils le mettront dehors aux prochaines élections. Ils s'en viennent, les nouvelles générations. Ils pensent autrement. Puis avant, moi, je fais partie de la génération X. J'étais très frustré, moi, de pas être capable de changer le modèle. Vous savez que chaque génération, puis ça, c'est des phénomènes sociaux, là. Chaque génération aimerait créer son modèle. Mais parfois, ils ne sont pas assez majoritaires. Ils doivent attendre. C'est comme si que vos parents vous donneraient leur maison en héritage.
Mm-hmm.
Quand vous la recevez, vous ne passez pas le boule dedans en disant ce que vous aviez fait, c'était pas bon, on recommence à neuf. Non, vous changez la couleur des murs, vous changez les planchers, vous mettez des fenêtres en PVC, vous la mettez à vos couleurs, à vous, à votre génération. Quand vos parents viennent la visiter, ils trouvent qu'elle a changé, mais ils reconnaissent la base. Ce qu'on dit aujourd'hui, là, on ne dit pas que le modèle n'est pas bon, il doit évoluer. Puis j'ai l'impression qu'on nous impose un modèle qui date de bien des années, là, puis qu'il y a de la misère à changer. Puis c'est une genre de majorité qui nous l'impose. Ben moi, ma génération, là, elle n'est pas trop d'accord avec ça, mais on était minoritaire. Elle est arrivée les Grecs, on s'est dit, on va être assez nombreux. Non, on n'était pas encore assez nombreux. Et maintenant, arrivent tes générations, les nouvelles générations, on sera 3 maintenant, et on aura la majorité bientôt. Puis ces changements sociaux vont s'amorcer. Parce qu'on aura été éduqués autrement, puis on n'aura pas trop de misère à faire les changements parce qu'on trouvait que c'est une aberration, mais on attendait juste le bon momentum. Puis là, on est dans ce momentum-là, on rentre vraiment dans une ère de responsabilité et d'engagement. Parce que si on le fait pas, bien, on s'en va vers finalement une société irresponsable. On va ressembler à cette société américaine, que moi qui ne fais pas triper du tout.
On va vers un mur.
Ben oui, vers un mur, puis il va y avoir de la discrimination, il va y avoir des sélections, puis il va y avoir des choix pas faciles. Le Québec, c'est une belle société. Puis notre différence qu'on a par rapport en Amérique, là, je dis souvent aux gens, pour regarder le Québec, il faut s'élever à 30 000 pieds dans les airs, puis être avec quelqu'un qui ne le connaît pas, il nous trouverait chanceux d'être au début du continent. Parce que le Québec aurait pu être en plein milieu du Canada. Okay? Après les sables bitumineux, là, ben, il n'y a plus grand-chose après. Mais on est au début du continent, donc les avions peuvent atterrir ici en premier. Les bateaux peuvent rentrer à l'intérieur parce qu'il y a un fleuve creusé naturellement. Si on aurait voulu le creuser nous-mêmes, là, ça aurait pris des milliards d'années. Okay? Et quand on la regarde de plus près, on a deux ressources naturelles renouvelables. Il y a des pays qui en voudraient une. On a deux, l'eau et la forêt. Et quand on regarde de plus près, on forme dans les meilleurs ingénieurs au monde en génie mécanique, électrique et aéronautique. On crée le C-Series, l'avion le plus moderne au monde. C'est les Québécois qui le construisent. Il y a trois endroits dans le monde où on construit des avions complets. Là. C'est Toulouse en France, Seattle aux États-Unis et le Québec. Puis le C-Series est considéré comme le meilleur appareil au monde, puis c'est des Québécois qui l'ont construit. Puis quand on regarde de plus près, on forme dans nos écoles nos enfants, justement, on leur apprend maintenant 2 à 3 langues. On est la seule entité en Amérique qui est capable de communiquer avec les Américains, les Canadiens et les Européens. C'est ça, le Québec. Cette capacité qu'on a, on en fait quoi maintenant? On a des défis devant nous. On peut-tu les régler?
Est-ce qu'on sous-estime?
Oui. On sous-estime, on a un complexe d'infériorité. C'est normal parce qu'on aura tout le temps ce complexe de d'où on vient, tu sais, de petit peuple. Mais vos générations, ça arrive, la mienne, je l'ai encore un peu. Puis l'autre devant moi sont un peu plus baveux. Mais les jeunes d'aujourd'hui, avec justement l'informatique qui sont collectés sur la planète, tout est possible. Il fallait éduquer les Québécois. C'est pour ça que je dirais toujours aux gens, on a un problème de santé? Éduque. T'as un problème économique? Éduque. T'as des problèmes sociaux? Éduque. Donc, le focus des Québécois sur la santé, le gouvernement met tous nos impôts là-dedans, devrait plutôt être mis sur l'éducation pour corriger tes problèmes de santé. T'sais? Donc, c'est pour ça que je défendrai toujours les enseignants, le personnel dans les écoles, puis nos enfants qui sont à l'intérieur. Je trouve que les Québécois ne priorisent pas assez l'éducation. Ça devrait être la priorité numéro un. Puis, tant qu'on ne fera pas ça comme Québécois, là, ben, nos écoles seront difficiles à rénover, à reconstruire, et on aura finalement de la misère à avancer. Ce qui nous a fait avancer au Québec, c'est l'éducation. On a créé cette révolution tranquille, on a éduqué tous les Québécois. Maintenant, on n'a plus rien envie à personne sur la planète. Là. La prochaine étape, là, c'est de continuer à focusser sur l'éducation puis s'élever encore plus loin, puis être soucieux de ce qu'il y a autour de nous. Puis avant, l'État nous prenait par la main. Maintenant, c'est plus comme ça que ça va fonctionner. Dans les prochaines décennies, ce sera les sociétés responsables qui vont se démarquer puis que leur économie va se démarquer. Puis ces sociétés de consommation, on sait très bien, c'est non pérennisable. Finalement, finiront par frapper le mur ou on n'aura pas choisi de prendre des virages radicaux. Le Québec peut faire différemment parce qu'on est une société différente. Puis on a une culture différente. Puis aujourd'hui, il rend des immigrés. Moi, ça me fait du bien. Je vais à Montréal, je vais dans les écoles. Ces jeunes, où ce qu'on sent les gens... Moi, j'ai recherché au Saguenay, là, puis j'ai aussi à Montréal à l'occasion. Puis quand je vais à Montréal, dans les écoles multiethnies, à 80%, 90%, là, tu sais, même dans ma région, souvent, on a des préjugés envers les immigrés. C'est bien de valeur, là. Je veux vous rassurer. Là. Quand je vais dans une cour de récréation d'une école primaire à Montréal, là, dans la commission scolaire de Montréal ou Marguerite Bourgeois, là, les tipites dans la cour de récréation, ils parlent tous français. C'est tous des petits Québécois. Le jour, il faut faire de l'inclusion. Il va falloir qu'un jour, on comprenne là, que si on veut aller plus loin, le Québec va aller plus loin, il devrait être beaucoup plus inclusif. Puis ces différences qui arrivent chez nous, ça nous rend plus forts, tout simplement. Puis moi, je crois à ça. Puis il faut voyager pour ça, pour pouvoir aller voir un peu ce qui se passe au Québec. Il y a des gros défis à Québec. Il y en a aussi dans ma région. C'est le plein emploi. On veut faire entrer des immigrés pour essayer d'être capable de continuer à stimuler l'économie. Puis moi, l'économie me préoccupe parce que je sais que si on réussit pas à stimuler l'économie, si on ne crée pas de la richesse, bien, on peut pas investir en éducation. On peut pas faire de route. Les deux sont étroitement reliés. Mais de quelle façon qu'on l'a fait, cette économie? Est-ce qu'on l'a fait d'une façon un peu plus responsable? Je suis pas un gars de gauche en passant du tout, là. Moi, je suis un centre. Je suis dans le milieu. Je suis centre-droite quand l'économie va mal, puis je suis centre-gauche quand ça va pas bien. Quand ça va pas bien, je suis centre-droite, puis quand ça va bien, je deviens centre-gauche. Autrement dit, je suis molléable selon l'économie. Quand ça va pas bien, on se retrouve sur les manches, on travaille fort. Quand ça va bien, ben on peut aider. Il faut aider. Aidons. Soyons social-démocrates.
De quelle façon on peut faire pour aller dans cette direction, finalement?
Exactement. Puis, vous savez, En tout cas, les gens qui viendront faire la boucle, là, le grand défi, c'est un mouvement social. C'est pas un événement sportif. C'est un mouvement social de responsabilité et d'engagement. Puis venez, parrainer une école, vous allez voir, ça fait du bien. Venez pédaler, dire « Ah, je vais parrainer l'école de mes enfants. » Puis je vais ramasser des fonds, puis aller porter juste le 200 $ que vous avez ramassé. C'est vous, c'est combien, 200 $ dans une école de 300 élèves? C'est presque le budget qu'ils ont annuellement. L'école au Québec, aujourd'hui, où on a réussi à avoir des petits programmes avec Force 4 et tout ça, là. Puis grand défi, on remet 3 millions par année là, dans 400 écoles, mais... Le budget annuel dans une école primaire au Québec, c'était comme ça pendant des années, là. C'est un dollar par enfant. Donc, il y a 300 élèves, c'est entre 300 et 500 $ de budget annuel pour changer les équipements ou faire bouger les enfants.
C'est rien.
Ah non, mais c'est rien. Pourtant, tu as une personne avec une formation universitaire, qui est un enseignant d'éducation physique, qui est là, qui a les compétences, puis on ne lui donne pas d'outils. C'est une aberration. Mais on n'a aucun problème à acheter des équipements là, à coût de millions pour soigner des problèmes de santé qu'on aurait pu éviter par des habitudes de vie. Où l'enseignant sur le terrain, il est prêt à le faire, puis on ne lui donne pas d'outils. Mais tu dis, ben voyons donc. Un jour, il y aura un recul sur notre société, on se dit, mais c'est quoi cette gang irresponsable qui est passée pendant quelques années? C'est nous, présentement, actuellement. Il faut prendre conscience de ça. Puis je vous dis, là, arrêtons de demander au gouvernement de régler nos problèmes. Je ne suis plus capable d'entendre ça. On est dans un modèle plus « qu'est-ce que moi je peux faire? » Puis ça va faire du bien. Donc, la prochaine étape du Québec, je suis pas pessimiste, là. Je suis optimiste parce qu'on crée des événements, puis les gens embarquent, puis on a des milliers de personnes, puis et ça grandit.
Quelqu'un qui décide aujourd'hui, parfait, Pierre Lavoie m'a convaincu, je vais faire la boucle. Comment on se prépare?
Donc, tu vas t'inscrire sur mon site en premier. Une fois que tu es inscrit, tu te dis, OK, là, il y a un programme d'entraînement qui est inclus. Vous pouvez cliquer là-dessus, vous allez voir, tout est là. C'est fait d'une façon... c'est pas les athlètes qui font la boucle, hein. C'est des gens ordinaires qui vont aller pédaler une longue par semaine, je dirais. Puis après ça, la semaine, rouler deux fois. La troisième fois, c'est de faire une longue distance. Longue distance, ça peut être 50, 60 km au début. C'est très long, c'est quand même 2 heures, là. Puis après ça, augmenter de 15 minutes à chaque fois. Puis approchez-vous de la boucle, mettons 2 semaines avant l'événement, essayez d'atteindre environ 80 km. Si vous atteignez 80 km, vous serez capable de faire le 135 parce que le reste des kilomètres, là, c'est l'événement qui va vous faire faire. Vous allez voir, vous allez être dans un événement, vous allez vivre quelque chose de wow. Puis vous allez dire, OK, là, je suis porté par l'événement. Vous allez vous dépasser.
Parlons du 1000 km. Ça fait 10 ans que tu le fais. C'est incroyable. Ça fait 10 ans que tu te prépares à chaque année pour le faire. Comment se prépare, toi, ton entraînement? Parce que toi, tu fais pas une ou deux étapes dans le 1000 km.
Non.
Tu le fais au complet.
Oui, bien, presque au complet maintenant. J'arrête. Depuis 2 ans, je saute les dernières étapes de nuit. Là, okay. Parce que le lendemain, j'ai perdu ma voix. Fait qu'il faut que j'aille dormir au moins 2-3 heures. Ça me permet de continuer. Mais... le 1000, c'est le moteur de tous nos événements, les écoles, la course secondaire, c'est vraiment la pièce maîtresse. Cet événement-là, bien entendu, a marqué les Québécois par son côté original. Puis ailleurs, c'est dur à répéter comme concept. Là. Ça prend beaucoup de bénévoles, une logistique, fermer les routes, rouler la nuit avec des lumières. Donc, c'est assez impressionnant. Là. Mais moi, ma préparation, c'est surtout le ski de fond l'hiver. Puis maintenant, je fais un nouveau sport qu'on appelle la haute route, donc du ski nordique. Je monte des montagnes avec des pots. De phoque et je descends à travers les sous-bois. Donc, dans mon coin, en Saint-Jean, c'est extrêmement développé. C'est comme dans les Chic-Chocs, mais moi, je trouve que c'est plus... en tout cas, j'aime plus mon coin. Là. Et donc, je m'entraîne là, l'hiver, dehors, à l'extérieur, parce que moi, je suis incapable d'aller à l'intérieur. Je ne suis pas capable de pédaler en dedans. Je suis incapable de faire de la musculation à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi, là, je suis fait pour être dehors. Puis j'ai apprivoisé l'hiver, donc je ne fais pas de vélo l'hiver. Mais dès que la neige est terminée, donc j'ai commencé à pédaler dimanche, puis il faisait froid, puis il est tombé une tempête de neige après. Bon, là, ce que j'ai fait, je vais aller nager tout à l'heure à l'Université Laval, en sortant d'ici. Donc, j'essaie de nager un peu, faire un peu de course, et j'irai faire un petit camp d'entraînement. Là. J'ai décidé d'aller avec ma blonde à Nice cette année. C'est exceptionnel, absolument. Je vais aux États-Unis, là. Mais là, je vais à Nice 9 jours pour aller monter des montagnes, parce que cette année, le parcours est très montagneux. C'est pas 1000 km cette année, c'est 1175, donc c'est près de 1200. Puis je me demande pourquoi. Ben, c'est parce que c'est le 10e anniversaire. On fait un peu plus simple.
L'étape la plus difficile en 10 ans?
Oui, cette année qu'on va la faire en 10 ans. C'est celle d'Alma, l'étape justement dans le parc des Laurentides, tout près de 2000 mètres de dénivelé d'ascension et 126 km. Donc, c'est une étape, une des plus longues avec beaucoup de dénivelé. Puis, elle va se faire, on arrivera dans les 2 dernières heures, on sort de nuit. Donc, c'est une étape pas facile, mais les cyclistes ont hâte de la faire. Ils aiment ça quand je leur lance des défis, là. Puis, mais l'étape qui me plaît le plus, c'est celle de l'abbé, au départ, à Anse-Saint-Jean, mon village natal. Oui. D'ailleurs, la genèse du grand défi, c'était le défi Pierre-Lavoie, qui est né le 3 septembre 1999, où j'avais fait le tour de ma région. Et cette année, le parcours du 1000 km, on va rouler 80 % du parcours d'origine. Et on revient à l'époque, puis moi, je me rappelle, le 3 septembre, j'étais parti à 15h l'après-midi. Il n'y avait pas personne au départ, c'est sûr, je commençais, j'étais tout seul. Mais quand je suis arrivé dans mon village, mes cousines m'attendaient, puis mes tantes, puis il n'y avait pas beaucoup de personnes. T'sais. Mais je reviens 20 ans plus tard avec 1000 cyclistes, 250 campeurs. Le village va être fermé pendant 5 heures. Et on s'en va sur le bord du fjord souper pour leur montrer mon village, leur montrer que notre région est belle, puis qu'on s'en va sur le bord du fjord. Puis ça, j'ai hâte parce que les gens qui ont vu à l'époque, il y a 20 ans, le défi Pierre-Lavoie, ben, vont voir maintenant qu'il a grandi.
Pour le 10e anniversaire, en fait, à chaque année, depuis quelques années, il y a quand même des petits cadeaux qui viennent avec l'inscription.
Ouais.
Je me rappelle, entre autres, il n'y a pas eu une année où c'était un casque de vélo, autres, il y a eu des lunettes aussi.
Ouais.
Et là, cette année, on offre une paire de souliers.
Oui, c'est notre thème de 10e anniversaire. Ça fait longtemps que je veux le faire. Là. Donc, on va offrir une paire d'espadrilles à tous nos participants de tous nos programmes. Donc, on a commandé 20 000 paires d'espadrilles.
C'est énorme.
Oui, c'est 5 camions remorques. 53 pieds. C'est dur à gérer, là. Brandé, donc avec nos couleurs et notre logo dessus, là. Donc, ce sont vraiment nos espadrilles à nous. Et ils s'en viennent d'ailleurs la semaine prochaine. Donc, tous les participants du 1000 et de la boucle recevront une paire d'espadrilles Catcher, donc quand même de bonne qualité. Et on leur donne. Ça vient avec l'inscription. Les gens reçoivent un reçu de 150 $ ou s'ils ont un chandail. Il y a aussi une autre petite surprise que je ne peux pas dire.
Oh.
Et un bon repas, puis un parcours ultra sécuritaire. On garde beaucoup nos cyclistes parce qu'on sait que souvent, c'est l'événement de leur vie. Puis aujourd'hui, il y a beaucoup. Puis nous, c'est pas but lucratif. Comprenez? C'est pas un événement où je dois dégager 30 % de profit parce que, nous, c'est à but non lucratif. C'est un OSBL. Puis il reste toujours un petit peu d'argent à la fin, puis l'argent est retourné dans les écoles. Puis si en plus les cyclistes décident de parrainer, bien, ça fait des cyclistes qui pédalent pour eux, mais également pour une école dans leur milieu. Et finalement, on amène la responsabilité et l'engagement. Comment? Donc, j'ai toujours aux gens pédaler, c'est facile, mais parrainer, s'engager, ça, c'est plus difficile. Donc,
c'est quand même pas facile, 135 km.
Oui,
de vélo.
Oui, je sais.
C'est un beau défi.
Mais t'avouer, je vous donne un petit peu d'historique. Moi, je faisais des Ironman et on roulait 180 km. Puis ma gang me disait, Pierre, il faudrait faire un 180 km. Non, 180, c'est trop. C'est trop, on perd tout le monde. Puis j'ai dit, 80, c'est passé. Il dit, même un fumeur pourrait rouler 80 km. Mais à 130, là, ça fait peur aux gens. Si tu dis, t'as pas le choix de changer ton mode de vie. C'était une étape là, juste assez pour dire, OK, je saute le 100, 130, là, t'as pas le choix. Tu mets la switch à on, tu changes ton mode de vie, et là, je crée un ambassadeur des saines habitudes de vie. Donc, je l'avais vraiment ciblé, là, la bonne distance pour atteindre les gens où je serais sûr que tous ceux qui seraient au départ auraient changé leur mode de vie.
Est-ce que c'est arrivé souvent que tu as vu, par exemple, une personne une année, puis l'année d'après, cette personne-là avec son enfant?
Ah, totalement. Ouais. Vous savez, l'année passée, au 1000 km, puis cette année, ça va se répéter. Là. J'étais en train de rouler, puis j'étais dans le coin de Saint-Sauveur, puis j'étais avec deux cyclistes, puis je leur disais, vous savez, un jour, le grand défi a grandi, ça fera 10 ans l'an prochain, puis on verra apparaître au 1000 km un enfant qui a fait des cubes énergie, là. Puis il y avait une fille qui roulait devant moi. Elle s'est tournée, elle dit, c'est moi. Elle dit, quoi, c'est toi? Elle dit, oui, moi, j'ai fait des cubes en 6e année. Puis elle dit, j'ai fait la course au secondaire. Puis l'an passé, j'ai fait la boucle. Puis cette année, j'ai été recruté par Desjardins. Puis je fais mon premier défi à la voie. Donc, c'était la première qui a fait des cubes, qui venait faire le 1000. Puis cette année, je sais que j'en ai deux, trois, là.
Le genre de choses qui te rend fier?
Oui, parce que, on a semé des graines. Puis moi, je sais que ça reste. Il y a souvent la période de turbulence, là, adolescence, là. Puis aux parents, soyez patients parce que les valeurs que vous inculquez à vos enfants jeunes, ils vont les reprendre une fois adultes. Puis cette période de turbulence qui est de l'adolescence, c'est normal. Il ne faut pas paniquer. Mais si vous n'avez pas inculqué ces valeurs tout petit, plus tard, ça va être difficile. Donc, faites votre travail de parent. Puis les écoles font bon travail. Puis moi, j'attends. On a semé une graine. Puis quand on les voit apparaître, plus tard, on se dit « Wow, OK, ça fonctionne ». Maintenant, il reste à être patient encore dix autres années. Puis finalement, on aura un mouvement assez fort pour... On aura infiltré le politique, puis le municipal, puis les entreprises. Ce monde-là sont partout, là. Comme dans l'environnement, là. Exactement la même chose que l'environnement. Nous, on suit le même mouvance, le même processus que l'environnement, t'sais, où on attend qu'il y ait deux générations qui aient été éduquées d'une façon différente, puis quand ils arrivent, ben ils changent de modèle.
Est-ce que ça veut dire qu'à un certain moment, il n'y aura plus de grand défi Pierre-Lavoie?
Ben, j'espère, parce que moi, je t'ai dit que je ne pédalerai pas toute ma vie. Il va falloir que je m'arrête un jour. Mais j'aimerais ça qu'il évolue. Parce qu'on a une belle équipe maintenant. On a 50 employés. Puis c'est un travail pour eux. Puis je dis, il y a beaucoup de monde qui travaille dans les hôpitaux, tu sais. Puis pas beaucoup en prévention. Donc, est-ce que le grand défi peut avoir un virage vers une entreprise qui un jour aura 1000 employés avec une cinquantaine? On pourrait le faire, je vous dis, là. J'ai juste à dire, OK, on le fait là. Puis on pourrait se lancer dans l'organisation d'événements majeurs au Québec. Hein? Et avec les employés, l'expertise qu'on a développée, là, l'équipement qu'on a, quand on va sentir que c'est le temps, on va dire non, vous ne perdez pas votre job, là, on va encore plus loin. Puis peut-être que maintenant, des événements démocratiques, inclusifs, on va en faire des centaines et des centaines, puis on va les gérer. Ça coche comme on a tout le temps fait. Sinon.
Et on invite nos auditeurs à s'inscrire, d'ailleurs, pour la boucle qui s'en vient mi-juin prochain.
Oui, 16 juin, les gens de Québec.
Puis c'est en plus sur la rive sud de Québec, ah, ouais, donc ouais. On en profite.
Oui, puis les petits villages là-bas, ça va être extraordinaire. Là. Puis je dis, venez voir les que je vous dis, là, j'ai rencontré hier la propriétaire, c'est une femme, qui avait peinturé ses vaches roses. Elle est venue à ma conférence, parce qu'hier, on voulait avoir des bénévoles. Puis d'ailleurs, si vous voulez devenir bénévole, vous êtes les bienvenus. On a besoin de beaucoup de bénévoles pour cette boucle. Puis elle est venue me voir, c'est moi qui peinturais mes vaches roses. Ah oui, bon, OK, donc est-ce que tu voulais repeinturer cette année? Elle dit, bien sûr, mais je vais en mettre plus pour être capable de gagner le 10 000 $. Donc, on a beaucoup de plaisir dans le changement. C'est ça qui est agréable, c'est que c'est un changement, puis on a du fun à le faire. Puis ça, c'est durable. Puis j'aimerais ça terminer en vous disant, j'ai eu une révélation, bien, des convictions que j'avais, puis durant les Jeux olympiques, sont venues se consolider.
OK.
Vous savez, les Norvégiens, d'ailleurs, j'en ai parlé à Alex Harvey, là, puis il était assez d'accord avec moi. Vous savez, les Norvégiens, c'est le pays qui a détrôné tout le monde aux Jeux olympiques, la Corée du Sud, OK? Puis les gens disent, ouais, ils sont 5,3 millions d'habitants, puis ils ont clenché tout le monde, là. Le Canada, on est 37 millions, là. Ils ont été 100 fois meilleurs que nous. Mais ils doivent prendre les jeunes quasiment dans le berceau là, pour les trouver les meilleurs, puis avec des programmes qui doivent commencer très tôt. Non. En Norvège, là, c'est interdit de faire des compétitions à 24 ans. Dans tous les sports. Aucune compétition. Okay? Les enfants doivent apprendre 5 sports à 24 ans. Ils font que de l'inclusion. Aucune exclusion. Okay? Ils sont dans le développement moteur et ils prennent le sport comme un développement humain. Okay? Donc, quand ils arrivent à 14 ans, il y a deux choses qui ont dicté leur programme, OK? C'est le plaisir et les amis.
Ouais.
Point, c'est tout. Donc, vu qu'ils font du ski de fond, avec plaisir, ils apprennent, ils jouent au soccer en ski, ils font plein de choses ludiques en ski, ils ont du fun ensemble, entre amis, puis il n'y a pas de discrimination, de comparaison. Donc, ils arrivent à 14 ans, dans une population de 300 000 habitants comme la mienne, là, au lieu d'avoir 8 fondeurs jeunes qui font la compétition, eux autres, ils en ont 20 000. Donc, ils vont prendre la crème, bien entendu.
Ouais.
Puis ils vont aller aux Olympiques. Je demande à Alex, combien les Norvégiens auraient pu avoir d'équipes aux Jeux Olympiques? Et il dit, ils auraient pu faire 4 équipes. La même que là-bas, même niveau, 4 équipes. Nous, quand on regarde Alex, derrière lui, je vois personne.
Ouais.
Le seul que je vois, c'est son père, il y a 30 ans. Puis le prochain qui va suivre Alex, c'est son fils dans 30 ans. Pourquoi nous, on a un modèle américain axé sur l'exclusion puis la performance? Quelqu'un du talent, on met tous nos efforts sur cette personne-là pour essayer de faire gagner une médaille. Ouais, moi, ce qui m'intéresse derrière Alex, il y en a combien qui font du ski de fond? C'est pour ça qu'on a parti ensemble avec Alex, le petit programme, la petite XP, là. Puis ça marche fort, là. Inclusion. Développe tes habiletés motrices. Les parents, arrêtez de faire du monosport avec vos enfants. Puis les écoles qui font qu'un sport, vous trompez. Un enfant à 24 ans, là, ça doit développer ses habiletés motrices dans tous les sports. Et si votre enfant joue au soccer et au hockey, bien, celui là, qui va recevoir la rondelle dans ses patins, là, ben, le joueur de soccer, là, ben, il sait quoi faire avec. Mais celui qui joue co-hockey, il a de la misère à la diriger parce qu'il n'a pas développé les habiletés des pieds. Vous comprenez? Tout ça, maintenant, on l'a compris. Puis quand ce pays-là arrive aux Olympiques, un petit pays qui fait de l'inclusion, aucune compétition à 14 ans, puis qui clenche tout le monde, je pense qu'on devrait faire un temps d'arrêt puis revoir nos modèles.
On a à apprendre.
Ben oui, totalement.
Pierre Lavoie, on lance le défi. Encore une fois, nos auditeurs de s'inscrire à la boucle sur la Rive-Sud cette année. Le grand défi Pierre Lavoie sur le site Internet. Tous les détails sont là, évidemment.
Ouais.
Et ben, on va se voir à la ligne de départ de la boucle avec grand plaisir.
Ben, plaisir. J'espère que tu seras là parce qu'on va avoir du fun.
Effectivement, je vais être là avec mon vélo.
Ah, génial. On roule ensemble.
Avec plaisir.
Merci.
Merci.